le courant de la journée, au grand quartier général allemand, une bombe a été lancée à proximité du Führer par l'officier que les conjurés avaient choisi pour exécuter cet acte criminel, le colonel von Stauffenberg.
Ans d'histoire. Le 20 juillet 1944, à 12h30, dans son quartier général de Rastenburg, en Prusse orientale, Hitler réunit, comme tous les jours, les officiers chargés de lui rendre compte de la situation sur tous les fronts où est engagée l'armée allemande. Autour d'une lourde table de chêne couverte de cartes d'état-major, personne ne remarque le geste du colonel von Stauffenberg quand il pose sa sacoche sous la table avant de quitter discrètement la réunion. Quelques minutes plus tard, à 12h42, la bombe à retardement qu'il avait dissimulée dans la sacoche explose. Persuadé qu'Hitler a été tué, l'auteur de l'attentat est déjà loin, en route vers l'aérodrome de Rastenburg où l'attend un avion pour Berlin. Stauffenberg ignore que le dictateur est indemne, que l'attentat a échoué et que dans quelques heures, il sera arrêté et fusillé avec trois autres conjurés d'un des complots les plus célèbres de l'histoire.
Ils sont condamnés à être passés par les armes.
Oberst Merz von Quirnheim.
Le colonel Merz von Quirnheim.
Général der Infanterie Olbricht.
Le général d'infanterie Olbricht.
Dieser Oberst und dieser Oberleutnant.
Ce colonel et ce lieutenant dont je ne veux plus me rappeler les noms.
Deutschland wird sich an unsere Namen erinnern.
L'Allemagne se souviendra de nos noms.
Das Urteil ist sofort zu vollstrecken.
La sentence doit être exécutée sur le champ.
Jean-Louis Thiriot, bonjour.
Bonjour.
Alors le colonel dont on a refusé de prononcer le nom avant de le fusiller, c'est celui dont vous avez écrit la biographie chez Perrin, le colonel von Stauffenberg, l'artisan d'un complot qui a failli tuer Hitler le 20 juillet 1944, et puis le héros aussi du film Valkyrie qui sort aujourd'hui dans les salles de cinéma. Alors on parle beaucoup de Stauffenberg aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. De tous les résistants allemands à Hitler, c'est, dites-vous, celui que la France connaît le moins. Pourquoi ?
Oui, parce que tout simplement, il ne correspond pas à l'archétype du résistant tel qu'on en a l'image en France. En France, le résistant, il est progressiste, il est généralement de gauche et il participe à des idées, entre guillemets, de progrès. Et le Parti communiste a joué un grand rôle dans cette fiction avec le mythe du parti des 30 000 fusillés. Stauffenberg, c'était tout le contraire. C'était un aristocrate, un militaire, un chrétien, un conservateur. Et en plus, un misogyne, ce qui n'arrangeait rien au tableau. Donc, c'est vrai que le personnage n'est pas spontanément sympathique. Et c'est pour ça qu'on le connaît peu en France. L'Allemagne l'a découvert beaucoup plus tôt. L'Allemagne a gardé son nom, mais la France le découvre à l'occasion de ce film. Il n'y avait aucune biographie à ce jour, en dehors d'une traduction en 66 en France.
Alors, il est né, vous le rappelez, en 1907 à Stuttgart. Il n'a que 11 ans, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, qui a traumatisé tous les Allemands, mais lui-même aussi, comme beaucoup d'Allemands, il est choqué, non pas seulement par la guerre, mais aussi par la défaite de 1918. Ça a été un traumatisme également pour le tout jeune Stauffenberg.
Ah oui, on ne comprend rien à Stauffenberg si on ne comprend pas que le jeune enfant, enfin l'enfant de 11 ans ou le jeune adolescent qu'il est, a connu successivement, mesuré le peu, 1. La défaite. 2. La chute d'un empire allemand qui était considéré comme un des plus grands de la Terre. A connu la peur du communisme, la peur des Rouges qu'il a vécu dans sa chair. C'est-à-dire que dans les rues de Stuttgart, les communistes essayaient de prendre le pouvoir. Les spartakistes avaient pris le pouvoir à Berlin. Il a un de ses oncles qui est fusillé par les soviets de Munich. Donc sa jeunesse, c'est la défaite et la peur. Et ensuite, c'est la crise de la République de Weimar, c'est-à-dire le chômage, c'est-à-dire le désarmement de l'Allemagne, c'est-à-dire un échec terrible.
Alors il ne rêve que de revanche et puis il entre dans l'armée comme beaucoup d'aristocrates allemands et comme tous les officiers. Eh bien il a prêté serment à Hitler après qu'il soit arrivé au pouvoir en 1933.
Je fais devant Dieu le serment sacré d'obéissance absolue au Führer. Du Reich et du peuple allemand.
Adolf Hitler.
Adolf Hitler.
dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht.
Chef suprême de la Wehrmacht.
Feuer! Feuer!
Alors ce serment de fidélité à Hitler, Stauffenberg l'a prononcé en 1934, vous le rappelez, Jean-Louis Thieriot, non pas seulement parce qu'il était obligé de le faire ou par opportunisme, obligé de le faire parce que les officiers allemands devaient prêter serment à Hitler, mais avant de vouloir tuer Hitler, il l'a admiré, Jean-Louis Thieriot.
Oui, on a voulu dire...
C'est peut-être aussi ce qui fait que... C'est un héros très particulier,
voilà,
quand même.
Non, mais ça n'est pas un profil de médaille, ça n'est pas une icône. Il a été séduit par le national-socialisme, ou en tout cas séduit par ce qu'Hitler apportait à l'Allemagne et ce qu'on pourrait qualifier à l'époque, et je mets évidemment des guillemets, des succès du national-socialisme. C'est-à-dire le retour de l'ordre, le retour à la prospérité. Il y avait 7 millions de chômeurs en 1933 en Allemagne, il y en a 1 million en 1935. Le réarmement...
Il y aura 6 millions de morts plus tard. Hein.
Et c'est, voilà, exactement. C'est pour ça que j'avais bien mis les succès, entre guillemets, et c'est un succès fictif, puisque c'est grâce à une économie de guerre, mais ça c'est un autre problème. C'est l'occupation, la réoccupation de la Rhénanie, l'Anschluss, la réunion de l'Autriche et de l'Allemagne, tous ces succès-là, et enfin l'annexion des Sudètes. Donc tous ces succès-là font qu'il est séduit par la loi, l'ordre et la grandeur allemande qui semble revenir.
Je crois même qu'il a fait partie de ces officiers qui ont entraîné les SA, les troupes d'assaut de Hitler.
Oui,
alors qu'il n'en fait pas partie, sachant qu'il le fait
et qu'il écrit d'ailleurs dans un texte que ce n'est pas du tout parce qu'il soutient, qu'il souscrit à l'idéologie nazie qu'il le fait, mais que ça fait des supplétifs, étant donné que l'armée de la République de Weimar était limitée en nombre d'hommes. Donc ça n'est pas une adhésion en tant que telle.
Alors on va le voir dans votre livre, évoluer dans ce domaine. Et il y a quelque chose qui le fait évoluer, c'est l'antisémitisme des nazis et surtout quand il se manifeste brutalement dès 1938, le moment de la nuit de cristal. Alors à ce moment-là, il écrit, il parle d'excès indignes et meurtriers qui tourneront le monde entier contre l'Allemagne. Cette nuit de cristal l'a beaucoup marqué.
Ah oui, c'est le vrai basculement. Il connaissait mal le national-socialisme. On sait qu'il n'avait pas lu Mein Kampf et lorsqu'il rentre à la Kriegsakademie, il demande à sa femme de lui acheter dans une édition bon marché parce que, dit-il, c'est une cochonnerie. Donc ça veut dire qu'il n'était pas marqué par l'idéologie. Et puis il découvre à Bamberg, là où il était en garnison, les synagogues qu'on brûle, les pogroms, etc. Et à partir de ce jour-là, en conscience, il n'est plus pro-nazi. Alors il se comporte en officier loyal, mais déjà, il a franchi une partie du chemin qu'il mènera à la résistance.
Ce qui est curieux, c'est que, par exemple, il réprouve, il considère que l'Allemagne n'est pas prête, l'entrée en guerre. Mais quand elle se déclenche, quand il voit les premiers succès militaires de l'Allemagne nazie, au début, effectivement, elle était gagnante sur tous les fronts, alors là, il va se battre. D'ailleurs, il va se battre avec courage. Il faut rappeler que cet homme, il a été très grièvement blessé en Tunisie. Il a perdu un œil et un bras. Il se bat. Mais alors, il est profondément écœuré, là encore, quand il apprend ce qui se passe sur le front de l'Est, les premiers massacres de Juifs.
Oui, c'est le moment où il entre vraiment, où il prend la décision d'entrer en résistance active, c'est quand il découvre trois choses. Un, la conduite désastreuse de la guerre. Deux, les massacres de Juifs, notamment à Borisov, où il apprend ce que font les Sonderkommandos sur les arrières de la Wehrmacht. Et surtout qu'il apprend la solution finale grâce à un de ses amis, Helmut James von Moltke, où il apprend ce qui se passe à Auschwitz. Et de ce moment-là, il dit qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de tuer Hitler.
Oui, il le dit, il l'écrit, il l'écrit en 1942. Alors, ça pose évidemment un problème chez cet homme qui est très croyant, qui est très attaché au serment. Évidemment, vouloir tuer Hitler et surtout passer à l'action, c'est évidemment trahir ce serment, ce qui n'est pas facile. Il va passer... même à ses propres yeux, pour un traître.
Oui, et c'est, je crois, l'un des éléments passionnants de la vie de Stauffenberg. C'est qu'il avait à choisir, pour reprendre le mot de Camus que j'aime beaucoup, « Si j'ai à choisir entre la justice et ma mère, je choisirai toujours ma mère. » Et là, Stauffenberg n'a pas choisi sa mère, il a choisi la justice. Et ça, il a pu le faire grâce à sa foi catholique, qui a été chez lui un élément de liberté et d'intelligence rationnelle. C'est-à-dire qu'au nom de saint Thomas d'Aquin, du tyrannicide, où dans certains cas la guerre est injuste et on peut se soulever contre les autorités légitimes, il décide d'entrer en résistance et il en parle aux autres conjurés qui l'emmènent avec lui.
Oui, effectivement, il se joint à d'autres officiers et des généraux, même qui complotent déjà, d'ailleurs, depuis longtemps contre Hitler.
Il faut nous opposer à Hitler maintenant et le renverser.
Et après ? Après qu'Hitler aura été renversé.
Excusez-moi, qui est cet homme ?
Le colonel Stauffenberg nous a rejoints pour remplacer Osterk. Il a été affecté à l'office général de l'armée de terre, au Bender-Block.
Beaucoup d'entre nous auraient pu faire partie du premier cercle d'Hitler. Et nous avons refusé, colonel. Le peuple sait que pour nous, les principes passent avant l'intérêt.
Nous avons le respect du peuple et celui de l'armée.
L'armée a prêté serment, un serment qui ne s'éteindra pas à la mort d'Hitler. Et après, que ferez-vous? Avec Goebbels, Himmler, les SS, vous serez balayés.
Eh bien, peu importe. L'important, c'est d'agir. Et maintenant, avant de perdre la guerre. Faute de quoi, ce pays restera à tout jamais l'Allemagne d'Hitler.
Moi, ça ne me suffit pas. Donnons-nous au moins une chance de réussir.
Alors, trouvez un moyen.
Et c'était un extrait du film Valkyrie qui sort aujourd'hui en salle avec Tom Cruise, donc Cruise dans le rôle de Stauffenberg, qui devient donc, on vient de l'entendre, en 43 plutôt, l'âme d'un complot auquel participent beaucoup d'officiers, et même des officiers qui lui sont très supérieurs, des généraux. En fait, une bonne partie de l'armée, et non la moindre, complote déjà contre Hitler, Jean-Louis Thieriot.
Oui, la résistance existe dans l'armée depuis 1938, donc ça remonte loin. Là, en l'occurrence, lorsqu'on est en 43, voyant le désastre à l'Est et la mauvaise préparation militaire, beaucoup de généraux complotent. On rencontre dans son entourage des gens comme Henning von Treskow, qui est un général de haut rang sur le front de l'Est, le général Olbricht, qui dirige les services généraux de l'armée, qui est le concepteur du plan qu'il va servir, et, chose intéressante, le général Heinrich von Stulpnagel, qui commande la Wehrmacht en France et qui jouera un rôle essentiel dans le complot.
Et puis alors, ces gens-là, quand même, pour quelles raisons veulent-ils comploter contre Hitler? Est-ce que c'est parce que la guerre tourne mal? Quelle est la finalité, au fond, de cette volonté de tuer Hitler?
Alors, il y a, parce que la guerre tourne mal, cette évidence, on décide...
À partir de 43, il y a eu Stalingrad.
Il y a eu Stalingrad. Hein, ouais. Sachant que Stauffenberg est entré en résistance avant Stalingrad, ce qui veut dire que ses motivations étaient beaucoup plus profondes. Maintenant, il y a ça. Il y a aussi, chez la plupart des conjurés, une profonde conviction de respect de l'humanité, de l'état de droit et des valeurs chrétiennes. Je crois qu'il faut le dire, puisque c'est quand même essentiellement une rébellion catholique ou protestante, mais une rébellion chrétienne, qui est que lorsqu'on entre dans la barbarie de ce qu'a été l'état totalitaire nazi, eh bien on ne peut que se rebeller contre eux. Et ils ont un programme de gouvernement en perspective...
Avec des civils.
Avec des civils, pour le jour où Hitler aurait été renversé. Et ce programme de gouvernement réunit ce projet de gouvernement des socialistes, Labour, Leuchner, des religieux, des centristes, des hommes de droite. Et ce qui est intéressant, c'est que ce programme...
Au sommet aussi un maréchal,
le maréchal von Wittleben, et des politiciens de haut rang comme Goerdeler, on ne va pas les citer tous. Mais ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que beaucoup d'éléments qu'on retrouvera ensuite dans la République fédérale et dans la Constitution de la République fédérale sont déjà dans ce programme de gouvernement.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est le complot. Le complot, c'est quoi? Qu'est-ce qui est prévu? En fait, vous le rappelez, Jean-Louis Thieriot, il s'agit d'utiliser contre Hitler un plan, le plan Valkyrie, qui devait servir en cas de troubles intérieurs. C'est ça, le plan Valkyrie?
Oui, c'est le génie d'organisation du général Olbricht et de Stauffenberg, qui était son chef d'état-major, qui était d'utiliser un plan voulu par le Führer en cas de troubles, d'insurrection, de soulèvement de camps de prisonniers, dans lequel l'armée devait prendre tous les pouvoirs, et de retourner ce plan contre le Führer lui-même, l'armée étant utilisée pour prendre le contrôle du parti nazi, de la SS, de la Gestapo, etc. Et tout le plan pouvait ainsi être développé à l'état-major sans que les sbires de la Gestapo ou d'autres services secrets ne s'en rendent compte. Et c'était ça le plan Valkyrie.
Ce qui est étonnant quand même, c'est le nombre de participants à ce complot. On est quand même très surpris, d'autant plus qu'il y a eu des tentatives, une tentative avortée le 15 juillet, que vraiment, il soit passé inaperçu de la Gestapo, Jean-Louis Thieriot.
Oui, je crois qu'il y a deux types de comploteurs. Les politiques, la Gestapo et la SS, en tout cas, savaient quelque chose, mais pour des raisons d'opportunité, n'a pas jugé utile de les poursuivre. Concernant les militaires, c'était l'esprit de corps qui jouait, l'esprit de casse qui était déterminant, et c'était très bien organisé par Stauffenberg, en tout cas en termes de respect du secret, et donc, effectivement... On n'a aucune preuve que ça ait transpiré et les documents de la Gestapo après l'échec du complot prouvent que peu de choses étaient connues.
Alors l'idée est la suivante, donc il faut tuer Hitler, On annonce sa mort, on profite de sa mort pour l'attribuer à je ne sais trop quel complot communiste, etc. Enfin, et on déclenche le plan Valkyrie qui permettra aux conjurés de s'emparer du pouvoir, de tous les points stratégiques du pouvoir en Allemagne, d'arrêter les SS, etc. Alors, il faut tuer Hitler. C'est Stauffenberg qui est à la fois le chef du complot et celui qui va le mettre en application en partant lui-même à Rastenburg. C'est là que se trouve le quartier général de Hitler. En tant qu'adjoint du général commandant de l'armée de l'intérieur, il est donc convoqué par Hitler lui-même. Il arrive à Rastenburg le 20 juillet 1944. Il dépose une bombe sous la table de la réunion d'état-major tout près de Hitler. Il quitte la réunion sous prétexte qu'il doit téléphoner. Et puis, c'est au moment où il quitte cette réunion qu'il entend l'explosion. Il est persuadé que Hitler est mort. Il se précipite, comme l'avait prévu le plan, il va prendre un avion pour retourner à Berlin, ce qui va prendre du temps, et pour vérifier le déclenchement du plan Valkyrie. Or, ce qui se passe, c'est que non seulement Hitler n'est pas mort à Rastenburg, mais à Berlin, le plan Valkyrie a mis du temps à être déclenché par Olbricht, Jean-Louis Thériault.
Oui, à la suite de la tentative du 15 juillet qui avait échoué, où le plan Valkyrie avait été lancé, les conjurés hésitent à le déclencher tant qu'on n'est pas sûr qu'Hitler est mort. Et ça veut dire que quand il débarque à 16h30 à Berlin, il n'y a eu que le tout début qui a été lancé. C'est lui qui fait accélérer le mouvement, mais il y a une grande lenteur de transmission. Le général Feldgebel, qui commandait les transmissions, n'a pas suffisamment pris le contrôle des transmissions, et donc tout est décalé de 3 heures. Et c'est le moment où est annoncé à la radio la survie d'Adolf Hitler.
Oui, parce que, à la radio, puis d'abord parce qu'il y a des communications, c'était pas prévu, entre Rastenburg, notamment le général Keitel, qui dit, mais attention, il téléphone à Berlin, attention, Hitler n'est pas mort, qu'est-ce que c'est que ce plan Valkyrie ? Donc une très très grande confusion, comme vous le dites, jusqu'à ce que, dans la nuit du 20 au 21 juillet, donc le monde entier, apprenne par la voix de Hitler qu'il a survécu à l'attentat.
Hier, dans le courant de la journée, au grand quartier général allemand, une bombe a été lancée à proximité du Führer par l'officier que les conjurés avaient choisi pour exécuter cet acte criminel, le colonel von Stauffenberg. Un des collaborateurs directs du Führer et plusieurs officiers généraux de son entourage ont été blessés, tandis que le chancelier lui-même, ainsi qu'il l'a annoncé cette nuit dans son message au peuple allemand, sortait indemne de l'attentat.
Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour deux raisons. D'abord, pour que vous puissiez entendre ma voix et constater que je ne suis pas blessé. Ensuite, pour que vous connaissiez ce crime qui n'a pas d'égal dans notre histoire. Une petite clique d'officiers ambitieux, criminels, bêtes et sans scrupules ont monté un complot pour m'éliminer et exterminer l'état-major de l'armée allemande.
Et c'était Hitler, donc, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1944, à 1h du matin, annonçant lui-même donc qu'il a survécu, ce qui met évidemment fin au complot. Cela dit, au moment où Hitler parle, ça fait déjà une heure à peu près que Stauffenberg a été arrêté et exécuté. Ça a été de manière très, très rapide.
Oui, ça s'est fait très rapidement. À partir du moment où la certitude est arrivée à l'état-major des conjurés qu'Hitler avait survécu, le général Fromm, qui commandait l'armée de réserve et qui avait été mis aux arrêts par son propre subordonné, Stauffenberg et Olbricht, pour prendre le contrôle dans le cadre de l'opération Valkyrie, est libéré par un certain nombre de membres de son état-major, donc il est à peu près 22 heures. Un échange de coups de feu a lieu dans les locaux de l'état-major. Stauffenberg est légèrement blessé. Et là, le général Fromm, qui savait ce qui se tramait dans son dos, qui s'est bien gardé de se mouiller tout en disant « Finalement, si ça marche, je serai de votre côté » et qui était prêt à voler au secours de la victoire, là se rend compte que c'est sa tête qui risque de tomber s'il ne fait pas preuve de la fermeté nécessaire. Il craint que Stauffenberg parle en disant « Je suis au courant ». Et donc, il se constitue en conseil de guerre et fait fusiller immédiatement dans l'heure qui suit les 4 principaux conjurés que sont Stauffenberg, Olbricht, Heften et son propre chef d'état-major Merz von Kirchheim, qui sont fusillés vers minuit et demi, Bendler Block, à la lumière des projecteurs. Le général Beck, qui avait vocation à être le futur chef de l'État, lui est autorisé à se suicider, il se rate et donc il est abattu du coup de grâce dans la Benlerstrasse.
Tout ça a raté parce que Hitler n'est pas mort. Comment expliquer que cette bombe déposée par Stauffenberg tout près de Hitler n'est pas qu'elle a explosé, mais qu'elle n'ait pas tué Hitler?
C'est la tragique logique du grain de sable dans l'histoire. Toute une série de causes ont joué, ce qui fait que ça n'a pas marché. Première raison, le général Stauffenberg était handicapé à la suite d'une blessure. Le colonel Stauffenberg, était handicapé à la suite de la blessure qu'il avait subie en Tunisie et il avait beaucoup de mal à amorcer les bombes avec des détonateurs chimiques.
Il y en avait deux.
Il y en avait deux et il n'a eu le temps de n'en amorcer qu'une. Deuxième raison liée à cela, visite impromptue de Mussolini au quartier général d'Hitler en Prusse orientale, qui fait que la réunion, au lieu de se tenir à 13h, se tient à 12h30, et donc Stauffenberg n'a pas le temps d'amorcer justement les deux bombes. Troisième raison, la réunion qui se tient habituellement dans un bunker où l'effet de souffle fait qu'une seule bombe aurait été suffisante, se tient dans un baraquement à l'extérieur, et donc l'effet de souffle est atténué, et on ne risque pas le blast qui détruit les poumons. Quatrième raison, la sacoche posée par Stauffenberg tout près d'Hitler, ou en plus, il avait le génie de dire, étant donné que je suis presque sourd, il faut que je sois à côté du Führer et déplacé par un officier qui arrive là. Et donc, la bombe explose plus loin, protégeant Hitler par un piétement de béton. Donc, tous ces petits grains de sable font que la bombe explose et que l'attentat échoue. Et ce qui est terrible, c'est que les conjurés avaient prévu soit un attentat qui réussisse, soit pas d'attentat du tout. Mais ils sont complètement surpris par ce qui se passe, c'est-à-dire un attentat qui a lieu et qui a raté.
Et qui a raté, Hitler fait évidemment aussitôt rechercher, arrêter tous les membres du complot qui seront au mois d'août traduits devant un soi-disant tribunal du peuple présidé par le redoutable Roland Freisler, un ancien communiste converti au nazisme et qui insulte les conjurés avant de les condamner à mort.
Hans-Georg Klamroth. Vous avez prêté serment à Hitler? Oui. En tant que membre du parti et soldat, oui. Les traîtres Karl Gördler, Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer et Ulrich von Hassel, au nom du peuple, du Führer et du Reich, condamnés à mort.
Et c'était 4 des 200 conjurés du complot de Stauffenberg, dont la plupart seront condamnés à mort et exécutés, on vient de l'entendre, à la suite de ce tribunal de Freisler, exécutés de manière absolument atroce. Vous le rappelez dans votre livre, Jean-Louis Thériault.
Oui, Hitler était évidemment furieux de ce coup d'État. Il ne faut pas oublier que le chant qui avait marqué l'ascension au pouvoir d'Hitler était le Ortswechsellied, qui commençait ainsi « Gegen die Rote Front und die Reaktion », contre le front rouge et la réaction, c'est-à-dire les deux bords. Et donc pour lui, ce complot, c'est le complot de la réaction. Il est décidé à avoir une justice féroce. Il met en place la responsabilité clanique, c'est-à-dire que ce sont les familles mêmes des conjurés qui sont poursuivis. Les conjurés eux-mêmes passent devant ce fameux tribunal avec Freisler, appelé de manière gourmande par Hitler notre Wyszynski, l'homme des procès des purges de Moscou, et il exige des exécutions particulièrement cruelles. Les conjurés devant être pendus, je cite l'expression d'Hitler, comme des quartiers de viande, et donc les exécutions ont lieu par pendaison à la prison de Plötzensee. Les conjurés sont accrochés à des crocs de boucher avec des cordes de piano pour qu'ils se sentent mourir en descendant et en remontant.
Ça, c'est la phrase de Hitler, hein, pour qu'ils se sentent mourir.
Il faut qu'ils se sentent mourir. Et surtout, et là, on voit le caractère du personnage, enfin, ça ne surprendra personne, mais il avait demandé que soient installés des projecteurs et une caméra pour filmer toutes les exécutions, et elles ont été filmées, et le soir, il se faisait présenter les films, soit à Rastenburg, soit à la chancellerie. Donc dans Berlin en flammes, vous aviez un Führer Adolf Hitler qui se repaît de voir pendre ses adversaires.
Et humilié, par exemple, il y a ce maréchal Wisleben, qui était le plus haut gradé du complot, qui est traduit devant ce tribunal de Freisler.
Et on lui enlève ses bretelles pour qu'il perde son pantalon, oui. Qu'il soit obligé de
Freisler lui dit, remettez votre pantalon, vieux dégoûtant. Enfin, c'était vraiment abominable. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont été condamnés à mort, exécutés. Beaucoup d'autres vont se suicider ou tenter de se suicider. Parce que, par exemple, le plan Valkyrie a commencé à fonctionner en France avec le général von Schulte-Nagel, qui va ensuite être poussé au suicide.
Oui, en France, il se passe quelque chose d'inouï et qui peut intéresser le public français. C'est que le général von Schulte-Nagel fait arrêter les SS et la Gestapo à Paris, et 1200 SS et membres de la Gestapo sont arrêtés le soir du 20 juillet à Paris et mis aux arrêts. Puis le coup d'État échouant, ils sont libérés ensuite. Mais ça veut dire que la Wehrmacht prend bien le pouvoir sur les nazis. Et Stulpnagel, quand il voit que ça a échoué, effectivement se suicide, va à Berlin, se tire une balle dans la tête sur le champ de bataille où il avait fait ses...
À Verdun,
sur le champ de bataille où il avait fait ses premières armes. Et alors là, comble de l'horreur, il se rate, il devient aveugle et trois semaines après, il sera pendu comme les autres à Plötzensee.
Il y en a d'autres aussi, il y a le général von Tresco qui joue un rôle important dans le film d'aujourd'hui, dans le film Valkyrie. Tresco qui se suicide lui aussi sur le front russe. Rommel aussi, on a dit qu'il était mêlé à cette affaire, Jean-Louis Thiriot.
Oui, Rommel était mêlé. Alors on ne sait pas ce qu'il savait exactement sur l'attentat. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il voulait une alliance avec les Américains et avant sa blessure le 17 juillet, il avait dit de toute façon, si Hitler n'entend pas raison, j'ouvre le front de l'Ouest, je mets d'accord avec les Américains et nous marchons sur Berlin. Et il a été obligé de se suicider en novembre 44.
Est-ce que ça a servi à quelque chose? Admettons même que Hitler ait été tué, que le plan Valkyrie ait fonctionné. L'Allemagne, quand même, ne pouvait plus gagner la guerre. Le 20 juillet, cet attentat du 20 juillet se déroule à peine un mois et demi après le débarquement en Normandie. À quoi rimait ce complot? Est-ce que ça avait un sens, au fond, Jean-Louis Thiriot?
Le but n'était pas de gagner la guerre. Très clairement, les hommes du 20 juillet savaient que la guerre était perdue. Le but était d'arrêter l'hécatombe et le massacre, et le but était que les atrocités nazies cessent. Et ça avait un sens, puisque entre le 20 juillet et mai 1945, il y a eu davantage de morts en Allemagne qu'il y en a eu pendant toute la période précédente, 4 millions de morts, 1,5 million de juifs morts dans les camps de concentration, sans parler des pertes pour les alliés. Donc oui, ça avait un sens, et ça n'est devenu symbolique que parce que le complot a échoué et donc c'est devenu un combat pour le symbole.
Oui, mais c'était important. Il y a cette très belle formule que vous citez du général von Tresco, qui était un des conjurés, qui avant de se suicider avait dit cette phrase: « Dieu avait promis à Abraham d'épargner Sodome s'il s'y trouvait seulement 10 justes. J'espère que grâce à nous, Dieu ne détruira pas l'Allemagne. » C'était ça, au fond, être parmi les rares justes qui se sont opposés à Hitler.
C'était montrer qu'il existait des justes en Allemagne. Je crois qu'ils l'ont fait.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui encore, en Allemagne, on pense à eux? Après tout, ils étaient accusés de trahison à l'époque.
Oui, il y a une réhabilitation de leur mémoire. C'est-à-dire que non seulement ils ne sont plus considérés comme des traîtres, mais ils sont considérés comme ceux qui ont fait le pont entre l'ancienne Wehrmacht et la nouvelle Bundeswehr. Il y a d'ailleurs des casernes qui s'appellent Stauffenberg aujourd'hui.
Merci Jean-Louis Thiriot. Pour en savoir plus, on peut lire, il faut lire même votre biographie passionnante consacrée à Stauffenberg et qui vient de paraître chez Perrin. À lire également La résistance allemande à Hitler de Joachim Fest et Nous voulions tuer Hitler de Philippe Freyer von Boslager, tous deux publiés également chez Perrin. La chance du diable, le récit de l'opération Valkyrie de Yann Kershaw chez Flammarion et Opération Valkyrie de Jean-Paul Picapert aux éditions de l'Archipel. Et enfin un numéro hors série passionnant du Figaro intitulé Ils ont voulu tuer Hitler, actuellement en kiosque. Vous avez pu entendre un extrait du film Valkyrie de Bryan Singer avec Tom Cruise dans le rôle de Stauffenberg et qui sort aujourd'hui dans les salles. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Céline Bonhomme et Yann Bouillot. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.